Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci pour votre présence, votre salle de discussion, pour cette troisième conférence des soirées scientifiques culturelles. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Bruno Latour, qui va vous être présenté par notre collègue Vincent Patrignol du CNRS Bouchy. Donc c'est la troisième du cycle, la troisième conférence du cycle annuel des conférences soirées scientifiques annuelles. Nous aurons une prochaine conférence sur la biodiversité, qui sera donnée par Michel Leroux, qui est chercheur au CNRS. Et ce sera le 11 mai, à la même heure, dans la même salle. Donc, je vais, sans plus attendre, laisser la parole à Vincent Patrignol, qui va vous présenter le conférencier de ce soir, et qui lui-même va vous dire un peu comment il va organiser sa conférence, puisqu'il y a apparemment quelques surprises.
Merci Gilles, bonsoir à tous, donc merci d'être là, et c'est un très grand honneur et un grand plaisir d'accueillir Bruno Latour, qui est un chercheur de renommée internationale, dont un certain nombre de personnes se plaisent à dire qu'il est plus connu aux États-Unis qu'en France, et sans doute pas le seul cas de ce type. Bon, Bruno Latour, je ne vais pas du tout retracer sa carrière scientifique, mais c'est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur la science et les scientifiques et la manière dont les théories se mettent en place et l'interface et le va-et-vient entre les théories scientifiques et la société. Il a aussi beaucoup travaillé sur les controverses. J'avais lu il y a deux ans à peu près un article, je pense, dans le Monde de Libération, qui m'avait frappé et beaucoup intéressé, où il expliquait finalement, c'est des thèmes qui nous sont chers à Chizet, au CNRS, que la nature qu'on aurait demain, au XXIe siècle, la fin du XXIe siècle, bien, quelque part, c'est nous qui la choisirions. Donc, là, je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris le sens de ses propos. Et ça a été un petit peu un flash pour moi, effectivement, c'est sur ces thématiques qu'il faut aujourd'hui travailler, parce que si on peut garder un certain nombre d'espèces emblématiques, c'est la société qui le décidera, parce qu'on est dans une phase de mondialisation qui ne laisse pas forcément beaucoup de place à toutes les espèces. Voilà, et puis le dernier point que vous avez mentionné, il a une responsabilité importante à l'école des mines, puis à Sciences Po à Paris, il était directeur scientifique. Il a mis en place une formation qui s'appelle Biolab, qui allie la science, la politique et l'art. Et ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais je crois qu'il a parfaitement raison, parce que c'est trois domaines qui s'allient très très bien. Donc, voilà. Merci infiniment de nous faire l'honneur de cette visite.
Merci de m'accueillir à Mel. Nous sommes en résidence, en quelque sorte, pour quelques jours à Chizet, où on apprend beaucoup de ce qui se passe à Chizet dans le lien entre science et agriculture. Et donc, je vais essayer de travailler avec vous, faire un petit exercice. Vous avez une petite feuille que vous avez été distribuée, que je vais faire travailler à la fin de mon exposé. Et j'ai essayé, en fait, de réfléchir à ce tweet que j'ai vu passer, qui dit « Si je vous dis « protéger la nature », vous baillez, mais si je vous dis « défendez votre territoire », alors vous prenez aussitôt les armes. » Donc c'est un grand paradoxe de toute la discussion en écologie politique. C'est pourquoi, au fond, quand on parle de nature qui nous paraît extérieure, quand on parle de territoire, ça nous paraît vital. Et comme vous le savez, on se mobilise plus rapidement, on prend les armes plus rapidement quand il s'agit de défendre notre territoire que de défendre ou de protéger la nature. Donc il s'est passé quelque chose, parce que la nature et le territoire sont peut-être un peu la même chose. Et c'est ça qui est assez curieux, c'est qu'on les sépare. Donc ce qui m'intéresse de faire avec vous un petit exercice, et à la fin de cette petite exposé, je vous proposerai de revenir à une tradition ancienne tu sais, des cahiers de doléances. Et j'ai trouvé le cahier de doléances de la région de Niort, que j'ai lu attentivement en 1789. J'étais réuni pour travailler la question du territoire et de savoir comment le défendre. Le défendre d'abord contre les percepteurs d'impôts, mais aussi le défendre pour modifier la façon dont le territoire était administré et utilisé aussi bien par les fermiers, les nobles, le clergé, etc. Et donc c'est cette reconstruction de territoire dont je pense que le temps est venu. Mais avant, je voudrais vous détacher de la question de la nature. Je vais vous donner juste un exemple lié à ce qu'a dit tout à l'heure Vincent, que certains artistes arrivent à trouver une formule pour représenter une nature qui est beaucoup plus proche de la vérité que beaucoup d'images un peu vertes et simplistes qu'on a de la nature. C'est une œuvre d'une américaine qui s'appelle Sarah Zee. Elle l'a fait à l'intérieur de son laboratoire. Elle a d'ailleurs, vous voyez, on voit encore les chaises et les tables sur lesquelles elle a construit ce petit bricolage qui est à échelle multiple. On ne sait pas si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ça définit pour moi assez exactement un concept que je travaille avec certains des scientifiques qui sont ici, qu'on appelle zone critique, qui est une espèce d'autre façon de saisir la question de la nature. C'est pas vert, c'est pas en dehors, c'est artificiel, c'est fait d'une multitude d'échelles, et les objets qui sont projetés à l'intérieur et à l'extérieur, on est à la fois, pour le visiteur en tout cas, saisi par la fragilité de l'ensemble, par la difficulté de distinguer ce qui est dedans et ce qui est dehors, par la multiplicité des échelles, par la multiplicité des êtres animés qui sont à l'intérieur de cette œuvre. Et je pense que c'est un cas assez typique dans lequel des artistes explorent une certaine façon de représenter la nature qui nous sort, disons, des clichés habituels. Voilà l'œuvre de Sarah Zee qui viendra bientôt, d'ailleurs, je crois, à Paris, à la Fondation Cartier dans un an. Donc ça, c'est juste un exemple pour vous sensibiliser au fait qu'il y a plein de visions de la nature un peu différentes et que c'est là-dessus que je voudrais essayer de réfléchir avec vous. Donc le problème général, comme vous le savez, je pense que tout le monde ici est convaincu, surtout si vous avez eu des autres conférences comme celle de notre collègue Gilles Bilin là, il y a quelques mois, c'est qu'on est bombardé de d'énoncés. Alors je vais switcher parce que on a un problème technique qui fait qu'on ne peut pas voir toutes mes diapos, donc vous voyez, vous ignorez celles qui sont à gauche, parce que sans ça, il n'y aura pas de suspense, et vous regardez juste ce qui est à droite. Et donc, en fait, on peut dire qu'on est tous bombardés d'énoncés, qui sont des énoncés de ce type, ça c'est typique du genre de propositions que les scientifiques font relayées par un journal comme le journal Le Monde, qui sont des énoncés de fait, évidemment, le taux de CO2 dans l'air au plus haut depuis plus de 2,5 millions d'années, mais qui sont aussi, et c'est ça un paradoxe dans lequel se trouvent les scientifiques qui travaillent sur ces grandes questions d'écologie, qui sont aussi des alertes. Et donc on a toujours ce problème, les scientifiques aimant se limiter avec raison à la simple énoncé de fait, mais ça résonne de la même façon que si je vous dis, d'une façon très calme, dans cette salle, un incendie s'est déclaré dans la salle. Si je le dis de façon très calme, ou si je dis en criant « un annonce, il y a eu un incendie au feu », ça ne change pas grand-chose, c'est un énoncé de fait, mais qui entraîne, disons, une volonté d'action, un désir d'action. Le problème de toutes ces énoncés scientifiques sur la question, disons, la mutation écologique, ce sont des énoncés de fait qui entraînent nécessairement, non pas une politique, mais en tout cas, des actions, ce qu'on appelle en anglais « policy », par opposition à « politique ». Et ça, c'est un vrai problème, parce que beaucoup ont conclu qu'on est plutôt dans la situation qui ressemble un peu à celle-ci, c'est-à-dire, c'est une assez amusante image de Spiegel, Das Ende der Welt, la fin du monde, avec M. Trump, qui est en train d'essayer de réaliser effectivement une fin du monde, en tout cas un abandon, comme vous le savez, de toutes les questions d'environnement. Il est en train de démanteler à la fois l'accord de Paris et l'ensemble des protections environnementales que 50 ans de travaux américains des deux partis républicains et démocrates avaient construit. Il y a des visions un peu plus belles de cette situation d'apocalypse. Vous reconnaissez ici l'apocalypse d'Angers qui n'est pas très loin de chez vous. Il y a des versions de type Hollywood. L'apocalypse version Hollywood, je ne vous passe pas le film parce que c'est un peu désespérant, surtout après avoir vu l'apocalypse d'Angers, mais qui sont toujours autour de cette question de qu'il se passe quelque chose qui est radicalement différent de ce qu'on a vu, que ça soit un énoncé sur le fait qu'on n'a jamais eu de temps de CO2 dans l'atmosphère depuis 2 millions et demi d'années, donc des époques très très longues, et qui correspondent sinon à la fin du monde, en tout cas à la fin d'un monde, la fin d'un monde où, disons, les acteurs de l'histoire humaine se trouvaient en gros sur un cadre naturel relativement stable. Donc c'est cette histoire-là qui est terminée. Donc, en quelque sorte, on n'est plus des acteurs ayant une histoire sur une scène comme celle-ci, qui elle-même ne bouge pas. Mais en fait, c'est une vieille histoire. Et c'est assez compliqué de comprendre ce qui est nouveau dans l'histoire de la mutation climatique que nous vivons. Si on utilise le terme de cosmopolitique pour décrire ce qu'il en est du lien entre une société et un environnement, ou une société humaine et une écologie, on retombe sur des catégories qui sont très anciennes, des définitions de la politique, qui sont au fond très classiques. L'expression la plus belle, vous la voyez ici, dans un cas qui est très célèbre, qui est celui de la fresque du bon et du mauvais gouvernement à Sienne, qui représente, à la fin du Moyen-Âge, en gros la somme de ce qu'on connaissait sur la bonne façon de gérer ou de participer à une vie publique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, lorsque c'est la salle, n'est-ce pas, à l'intérieur duquel se réunissent, voilà, la salle à l'intérieur duquel se réunissent les édiles de Sienne au XIVe siècle, dans cette salle où il y a la fresque du bon et du mauvais gouvernement. Et si vous regardez la fresque, vous apercevez qu'il y a évidemment une définition de l'ordre du monde social, mais c'est aussi l'ordre du monde naturel. Et c'est ça que capture la notion de cosmopolitique. Faire de la politique, c'est toujours faire de la cosmopolitique. C'est toujours s'intéresser à ce qui se passe dans le cosmos. C'est-à-dire aussi bien l'eau, le sol, l'air, le commerce, l'ensemble des êtres avec lesquels une société civique se compose. En tout cas, c'était la vision du politique jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Il s'est trouvé qu'après, à la période classique, et encore plus à la période moderne, on a commencé à distinguer les questions de cosmos au sens de la cité et les questions, disons, d'environnement. Mais à l'époque de la fresque de Sienne, ça n'était pas le cas. Et ce que vous voyez là, c'est que vous voyez un mur en haut du bon gouvernement et en bas du mauvais gouvernement. En haut, vous voyez les figures. Et ce qui est intéressant, c'est que le bon gouvernement, c'est aussi une écologie. Le bon gouvernement, c'est une ville bien construite, avec un commerce abondant, des gens qui profitent de la danse, vous les voyez, ce sont des gens qui dansent en haut à gauche, une architecture qui est une belle architecture, une population qui se déplace dehors, là-bas, dans une riche biodiversité, dans des champs nombreux et bien tenus, avec des fermiers, des agriculteurs qui participent, disons, à la vie de la cité sans séparation forte entre les deux. Et en bas, vous avez le mauvais gouvernement, qui est marqué ici par la discorde, vous voyez ce personnage un peu diabolique avec ses cornes, et le paysage et l'écologie urbaine, commerciale et paysanne se trouvent complètement détruits. Vous le voyez mal, parce que la fresque n'a pas été restaurée pour le mauvais gouvernement autant que pour le bon gouvernement. C'est assez logique, effectivement, si vous avez à payer pour une restauration, vous choisissez plutôt le bon que le mauvais. Mais quand même, vous voyez que là, des gens sont assassinés, des commerçants sont assassinés, donc il n'y a pas de commerce. L'environnement est totalement ravagé, les arbres sont détruits, les plantes sont peu nombreuses, et évidemment, règne à l'intérieur de la cité la catastrophe pour le Moyen-Âge, c'est-à-dire la discorde. Donc, le lien entre la situation, disons, de l'ordre social et de l'ordre naturel n'est pas une situation nouvelle. C'était la situation normale de la définition de la politique, appelons-la justement cosmopolitique, jusqu'à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, et c'est simplement nous qui l'avons un peu perdu. Alors évidemment, maintenant, on le retrouve. On le retrouve pour une raison assez simple, c'est que la situation cosmopolitique dans laquelle on est, il y a certains traits qui sont effectivement complètement nouveaux et qui sont en gros le fait que, comme vous le voyez ici dans cette admirable BD de Philippe Squarzoni, qui s'appelle
Saison brune.
Qui s'appelle Saison brune. Et c'est une magnifique BD, c'est le meilleur livre sur la question climatique se trouve, est une BD. Ça prouve que les artistes sont parfois souvent en avance sur les scientifiques et ceux qui prétendent vulgariser la science. Pourquoi ? Mais parce que par le dessin et par les arts, elle parvient à construire cette scène assez bizarre que de gens que vous voyez à moitié sidérés par la montée des eaux devant une multiplicité de ce que vous voyez tous les jours sur vos écrans de télévision ou que vous écoutez à la radio ou sur vos écrans d'ordinateur. C'est-à-dire de mauvaises nouvelles qui ont tout à voir avec la cosmopolitique et que nous ne savons pas, disons, organiser ou rassembler dans nos esprits et encore moins dans notre politique. C'est cette situation nouvelle qui se trouve résumée par ce terme qui, bizarrement, a été inventé par des chimistes et des géologues, ce terme dont vous avez peut-être entendu parler, peut-être que Pilène en a parlé autrefois, ce terme de l'anthropocène qui dirait... pour le dire vite, bien que ce soit un concept encore disputé à l'intérieur des sciences, que l'histoire longue des ères et des périodes géologiques que vous avez tous appris à l'école et que vous voyez là simplifiée par cette espèce de ruban qui résume l'immense histoire des milliards d'années, se trouve brutalement liée, de façon complètement imprévue, à une minuscule histoire qui est tellement petite qu'on ne peut même pas la figurer là, il s'agit de quelques dizaines d'années, qui serait la période dans laquelle, disent les biologistes aussi bien que les biochimistes, plus exactement les stratigraphes, ceux qui font, les géologues qui s'occupent de la stratigraphie, que c'est un épisode dans lequel la force géologique la plus importante, ce sont, c'est vous quoi en gros, vous collectivement, les humains, leur industrie et les bêtes, leurs vaches, veaux, cochons, etc. Que nous sommes, nous les humains, c'est pour ça que le mot anthropocène veut dire, scène c'est simplement pour dire que c'est une nouvelle époque, anthropos c'est que la force la plus importante, depuis, on ne sait pas trop, il y a une dispute sur la date, certains proposent 1945, donc une date extrêmement récente, pour dire, il s'est passé là quelque chose, de l'activité des humains qui sort de la cosmopolitique classique. Il se passe là quelque chose, si je le regarde moi en tant que stratigraphe et pas du tout en tant que sociologue ou historien, je vois une distinction dans les couches successives géologiques telles qu'elles seront dans le futur, une rupture qu'il faut, tellement radicale, disons, qu'il faut lui donner un nom, comme on a donné le nom à toutes les ères que vous voyez, toutes les époques et périodes que vous voyez représentées ici. Et évidemment, le problème avec cette proposition que nous font les géologues, c'est qu'il y a quelque chose d'invraisemblable. On ne peut pas, voilà un exemple que j'ai pris en visitant, mais vous pouvez en multiplier, à Cornell, aux États-Unis, entre le haut et le bas, il y a 15 millions d'années, et l'idée que nous formions, nous les humains, on soit capable de former une de ces couches, après quelques dizaines d'années, voire quelques centaines d'années de notre civilisation, ça paraît quand même assez peu probable. On a de la peine à réconcilier ces immensités d'histoire géologique avec la rapidité et apparemment pour nous la petitesse de notre action sur la Terre. Et pourtant c'est bien l'image qu'essayent de se donner les gens qui travaillent sur cette question de l'anthropocène, qui essayent de multiplier les représentations, et vous voyez que ces représentations, voilà typiquement une des nombreuses représentations qui essayent de populariser la notion d'anthropocène, il y a les mêmes éléments que ceux qu'on trouverait dans un cours de géologie, mais vous voyez que, qu'il s'agisse des poissons, qu'il s'agisse des couches inférieures des fossiles, ou qu'il s'agisse de l'air ou de l'eau, une cosmopolitique nouvelle se met en place, dans laquelle il est aussi important de considérer la multiplicité de l'industrie, les transformations de l'agronomie, que les questions que poseraient classiquement des géologues, des hydrologues, des biologistes, des sociologues ou des économistes. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait ordonner en couches successives des couches qui, disons, considèrent les sciences naturelles, et puis au-dessus, on aurait rajouté une couche pour, disons, le monde social, tel qu'on l'aurait fait encore il y a, je ne sais pas, une vingtaine d'années, par exemple, 40 ans plus exactement, dans cet exemple d'un cours célèbre de Duvigneau qui s'appelait la synthèse écologique, qui ressemble par beaucoup d'aspects à ce qu'on ferait dans, comme compte et comptage entre les rapports entre terre, micro-organismes, animaux et soleil, eau, air, correspondant assez à ce qu'on ferait au fond dans une zone atelier comme type de calcul, pour prendre l'exemple de Chizé qui n'est pas loin d'ici. Sauf que, évidemment, maintenant, il faut prendre en compte tout un tas d'autres éléments dont Duvigneau n'avait pas idée il y a encore qu'une trentaine d'années, qui sont tous ceux qu'il faudrait représenter et étudier si on était vraiment conscient du caractère original et nouveau de l'Anthropocène. Et pour donner une idée, on a certains des mêmes scientifiques, d'ailleurs en l'occurrence c'est un papier de Stephen, ou de Bill Stephen, de rajouter une espèce de simplification évidemment de ce qu'on appelle l'empreinte des humains sur la Terre. La Terre étant conçue d'ailleurs comme une... Enfin, passons sur la représentation de la Terre, on va en parler tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans cette notion de grande accélération, c'est de repérer, avec quelques éléments évidemment très, très simplifiés, c'est des calculs sur le dos d'enveloppe, mais quand même de donner une idée de l'échelle du phénomène que nous représentons à l'échelle de la Terre. Le petit parallélépipède que vous voyez ici représente en 1900 l'empreinte des humains sur la Terre. Le deuxième, 1950, si vous arrivez bien à lire, c'est en gros, je vois quelques personnes à cheveux blancs ici, c'est de ma génération, quand nous sommes nés, les baby boomers, notre empreinte, l'empreinte collective des humains sur la Terre était quand même relativement minuscule. Et en 2011, vous voyez la taille du parallélépipède, il y a plusieurs ordres de grandeur de différence avec la place, l'empreinte, footprint, comme on dit en anglais, de les humains sur Terre. Et donc le problème de la taille, ce qui paraît invraisemblable quand les géologues nous disent nous sommes entrés dans l'Anthropocène, c'est qu'en fait, collectivement, nous sommes bien à la taille de phénomènes géologiques aussi massifs que les météores, aussi massifs que les grands moments qui ont transformé la planète. C'est pour ça que certains prétendent que l'Anthropocène n'est pas simplement une période qui serait relativement courte, mais même éventuellement une ère nouvelle. Et vous avez ici quelques du même papier de la version nouvelle de l'article de 2015 qui représente, et vous voyez assez clairement, la rapidité avec laquelle montent toutes les données aussi différentes que l'usage de l'eau, la taille des barrages, la quantité de transport depuis 1700 jusqu'à nos jours. Et évidemment, ce qui est intéressant, Vincent Bretagnol l'a montré ce matin à nos camarades scientifiques qui se trouvent ici, c'est que vous trouvez à peu près, là il s'agit d'une légère variation depuis 2015 entre les pays développés et les pays en développement, mais c'est les pays en développement maintenant qui sont responsables de l'augmentation des courbes. Et ici, voici les données, disons, de sciences naturelles qui ont toutes à peu près la même forme, qu'il s'agisse de la quantité d'azote, de la quantité de la diminution des captures de poissons ou l'acidification de l'océan en haut à droite. Autrement dit, c'est ce qui vous donne une idée de la grande accélération, c'est le mouvement daté de façon intéressante comme l'Anthropocène à peu près de 1945, pour une raison technique que je passe et dont on pourra discuter tout à l'heure, et même d'imaginer, c'est le dernier papier de Stefan qui m'a pas mal troublé, qu'au fond on est en train de passer, de sortir tellement, les mathématiques ne nous intéressent pas, mais si, ce qui est intéressant c'est la forme du diagramme qu'ils ont inventé. En gros, pendant les périodes glaciaires et interglaciaires, le système Terre tournait à peu près autour de ces deux attracteurs que vous voyez là à gauche, et puis la possibilité que depuis l'Anthropocène, avec une rupture, nous sommes en quelque sorte envoyés collectivement dans une expérience et autour d'un nouvel attracteur pour lequel nous n'avons pas de précédent. Et donc c'est là où la question politique devient très intéressante, c'est qu'au fond, ce qu'on appelait cosmopolitique jusque dans les années 50 ou dans les années 80, se situait à l'intérieur d'un cadre
naturel, disons, qui était relativement stable. Donc il faisait que les habitudes que l'on prenait de gérer les relations entre les humains, disons, on avait un répertoire d'actions et d'habitudes qui était à peu près connu. Mais depuis 1980, on est dans un répertoire d'actions pour lequel il n'y a pas de précédent. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire. Il n'y a pas de précédent non plus dans l'histoire géologique. Et c'est là où la souffrance, aussi bien des scientifiques que des artistes et des politiques et des citoyens, devient beaucoup plus grande. Nous sommes dans une époque, si on en suit ce que disent les géologues, une époque qui, littéralement, n'a pas de précédent. Ce qui est très ennuyeux pour le droit comme pour la politique. Alors évidemment, la question de l'anthropocène est disputée, mais voilà l'article de 2016, même, disons, avec Jan Zalazewicz comme auteur principal, qui fait un peu la somme des résultats actuels sur la question de l'anthropocène. Et vous voyez assez clairement le genre de données qu'ils utilisent. Vous voyez là, en bas, dans cette couche, dans cette carotte glaciaire, en bas, la situation relativement stable, et puis aussitôt, à cette rupture assez nette, l'arrivée de nouveau, dans des périodes, après des milliers d'années d'accumulation de glace, brusquement, il n'y a plus de glace. Il se trouve qu'il y a de la végétation, ce qui indique une transformation assez radicale. Donc l'idée est évidemment très troublante pour nous tous, c'est que ces géologues imaginent que si on regardait dans quelques centaines d'années ou milliers d'années la forme de la stratigraphie des roches qui sont laissées par les humains aujourd'hui, ils n'auraient aucune peine, disent aussi bien le président de ce comité qui s'appelle Jan Zalazewicz, ils n'auraient aucune peine à reconnaître une différence radicale en disant là il s'est passé quelque chose d'aussi radical que le moment où le fameux météore qui aurait éliminé les dinosaures a frappé la Terre. Donc c'est un puzzle pour les sciences politiques, pour les citoyens, d'avoir à vivre dans une époque qui est décrite par les géologues, non pas comme un cadre extérieur à la vie publique, mais comme ce que la vie publique a causé à la transformation du cadre géologique. C'est ça la nouveauté. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'entre vous ici, et les gens de Chizé, aussi bien que d'autres qui sont parmi vous, sont obligés de relier les sciences naturelles et les sciences politiques et sociales d'une façon complètement différente. Michel Serre avait résumé cet argument avec une très belle phrase. Il avait comparé la découverte de Galilée, que la Terre se meut, avec une autre découverte, qui est celle que nous faisons tous collectivement en ce moment, que la Terre s'émeut. La Terre se meut, ça c'est le grand thème, disons, de Galiléen. Mais l'autre thème est proposé non pas par Galilée, mais par son successeur, en quelque sorte, qui est un scientifique qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle James Lovelock, qui est le réinventeur de la théorie de Gaïa, qu'on appelle système Terre, qui est que la Terre non seulement se meut dans l'espace, mais s'émeut, c'est-à-dire se meut sous nos pieds et nous oblige à reposer différemment la question politique, puisqu'on ne peut pas compter sur la stabilité du cadre matériel naturel pour conduire nos propres affaires. Je n'ai pas le temps de parler de cette théorie, mais elle est développée par deux scientifiques importants, James Lovelock et Lynn Margulis, et je passe rapidement sur cette théorie Gaïa sur laquelle j'ai moi-même beaucoup travaillé. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette théorie Gaïa, qui est souvent mal comprise, c'est pas du tout que la Terre soit vivante. C'est que, au fond, il faut regarder le système Terre comme transformé par l'action des vivants, au même titre que si vous regardez une termitière ou un barrage de castor ou une grande usine en Chine, tous les aspects matériels que vous voyez ont tous été transformés, mâchonnés, dans le cas des termites, médiés par l'action des vivants. Donc c'est pas que la Terre est vivante, c'est qu'il n'y a pas, au moins dans la partie de la nature qui nous intéresse, c'est-à-dire la petite pellicule à l'intérieur duquel nous vivons, que certains appellent zone critique, justement parce que c'est une toute petite pellicule, aucun des phénomènes chimiques ou biochimiques qui n'ait pas été modifié, transformé, ralenti ou accéléré par l'action des humains. il ne faut pas confondre Gaïa avec un argument un peu rapide et finalement simpliste sur l'idée que la Terre est vivante. C'est simplifier l'argument par deux livres qui sont assez, qui repèrent en gros la question, en tout cas par leur titre. Un très célèbre livre de Alexandre Coiré qui s'appelle « Du monde clos à l'univers infini », qui décrivait au fond la révolution scientifique telle qu'on l'imaginait jusqu'il y a encore quelques années, depuis le XVIIe siècle jusqu'au XXe. On était dans un monde étroit, un cosmos étroit, et on est passé à l'univers infini. Et ce très beau livre de Émilie H., excusez-moi, son nom n'apparaît pas, c'est bien, si on le voit, Émilie H., qui utilise précisément la situation dans laquelle nous nous trouvons à nouveau, c'est-à-dire on était dans un univers infini mais qui était clos d'une certaine façon, et on se retrouve sur un monde qui est local, mais qui a des capacités de complexité, d'hétérogénéité infinie. C'est précisément ce qu'on étudie aussi bien dans des zones ateliers comme Chizé, c'est-à-dire l'extraordinaire hétérogénéité de cette Terre qui ne ressemble pas finalement à cet espace infini dans lequel on était supposé aller. Et évidemment, ça m'amène à l'exercice que je voudrais vous faire faire, c'est bien de vouloir défendre la nature, mais c'est laquelle nature que vous voulez défendre, et surtout c'est pour qui vous voulez la défendre, pour qui. Et vous voyez que c'est pas du tout pareil de défendre une terre qui est la nature, extérieure, celle de l'ancien univers, ou de défendre un territoire qui nous appartient, sur lequel nous subsistons et pour lequel nous sommes prêts, disons, il faut dire le mot, à donner notre vie. Un territoire, c'est ce pourquoi on est prêt à donner sa vie. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose de parler de nature comme un spectacle extérieur ou de parler de territoire. Or, il y a un événement très important pour beaucoup d'entre nous, qui est cet événement, et ici, vous voyez le 11 décembre 2015, qui est la fin de la COP21 à Paris, ce grand moment d'exaltation et de congratulation des différents diplomates qui ont participé. Vous voyez, M. Fabius, M. Hollande, mon collègue professeur à Sciences Po qui se trouve à gauche, qui a beaucoup travaillé, Mme Tubiana, sur la discussion entre les 180 pays, qui se sont mis d'accord pour obtenir un but politique d'organisation de leur territoire commun, de rester en dessous, comme vous le savez, de 1,5 degré, ce qui est assez peu probable, étant donné que nous sommes déjà à 1,1. Mais ce qui est intéressant, je ne parle pas du fait que M. Trump saboté cet accord, mais ce qui était intéressant, c'est que dès cette journée-là du 11 décembre, du 12 décembre, on était déjà en train de s'apercevoir que il s'était passé autre chose que ce grand moment d'unanimité des différents pays. C'est que, pendant les séances de la COP, vous vous rappelez peut-être, tous les pays avaient été, on leur avait demandé de présenter la façon dont ils imaginaient leur développement économique et social à 30 ans. Et donc pendant les 15 jours ou 3 semaines, de la COP, les gens s'étaient, tous les pays rassemblés, s'étaient rassemblés pour dire dans 20 ou 30 ans je ferai ça, dans 20 ou 30 ans je ferai ça, moi la Bolivie, moi l'Inde, etc. Ce qui avait d'ailleurs été demandé par Mme Tubiana justement comme une façon de débloquer la négociation et donc de faire une espèce de politique fiction. Mais ce qui était bouleversant pour tous les membres de cette assemblée très importante, c'est que quand ils ont fait la liste de tous les projets de développement de tous les pays qui étaient assemblés à Paris, la seule conclusion à laquelle ils sont parvenus, c'est qu'il n'y avait pas de monde correspondant à ce projet de développement. Donc, un léger problème, c'est comme si nous ajoutions ici tous les vœux des gens qui sont dans cette salle et qu'on essaye de les compiler et qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas, même la belle cité de Mel n'est pas capable de rassembler tous les désirs de ses habitants. Et donc, au milieu de cette unanimité de la COP, il y avait quelque chose de tragique de voir tous les pays s'apercevoir les uns devant les autres, parce que c'est la première fois que ça arrivait en fait. Jusqu'ici, on imaginait qu'au fond, on allait bien passer, on allait se débrouiller, que le développement allait être universel et planétaire. Et puis brusquement, les pays sont aperçus que non, il n'y a pas de monde planète capable de tenir les projets du monde, disons, socio-économique. Et c'est là où les questions de territoire deviennent à la fois passionnantes et tragiques. D'une part, on nous dit, les géologues, première partie de mon exposé, la question géologique et la question sociale sont la même question. Et en même temps, au moment de la COP, les parties représentées, qui représentent l'ensemble du monde, au sens disons, des États souverains, entre guillemets, s'aperçoivent que leur projet, leur projection dans le futur, n'a pas de monde sous leurs pieds qui correspond. Et c'est ce moment très dramatique et en même temps très important qui me paraît utile de rappeler, en quelque sorte, pour aborder la question qui nous intéresse ici tous, et nous ne sommes pas représentants d'État, nous n'avons pas le problème de M. Fabius de rassembler 189 pays dans une salle à Orly, au Bourget, pardon. Mais nous avons à composer à notre échelle, pour nos propres problèmes, le territoire sur lequel nous résidons effectivement. Et c'est le petit exercice que je voudrais vous soumettre, parce que j'ai en tête quelque chose qui est lié à ce conflit de terre. Donc vous voyez, le conflit est assez simple. Enfin, il est assez simple, si on peut dire. Nous avons d'une part des gens qui nous disent les questions qui vous permettaient de traiter les questions politiques ici, sur un cadre naturel, qui ne bougeait pas, c'est terminé, le cadre bouge. Aux acteurs humains s'ajoutent les acteurs non humains qui bougent et qui transforment un peu moins des pays comme la France, mais j'ai une amie qui travaille en Arctique et qui étudie des peuples qui voient leur monde se transformer, mais à une vitesse ahurissante, avec des différences de température de 15 degrés. Donc il ne s'agit pas du tout de toutes petites différences, c'est des transformations massives. Donc ils assistent à la transformation rapide du sol sous les pieds, sous vos pieds, le sol bouge. Et en même temps, politiquement, nous continuons le même principe de projection d'un question de développement dont nous avons appris au moment de la COP il y a un an et demi qu'il n'y avait pas de terre qui correspond. Et donc le problème, c'est que je vous adresse, parce que évidemment je n'ai pas la solution, c'est sur quelle terre nous allons résider dorénavant. Quelles vont être la définition politique, économique et scientifique des territoires sur lesquels nous résidons. Et autrement dit, c'est un dessin d'Alexandra Arène qui est dans cette pièce, le globe sur lequel nous sommes appelés, en quelque sorte, à atterrir, si vous voulez, n'est pas le globe infini de l'horizon sur lequel nous étions en voie de développement jusque, disons, en gros, pour simplifier, dans les années 80. Il s'est passé quelque chose, qui correspond d'ailleurs de façon assez intéressante à la chute du mur de Berlin, disons 89, où brusquement le régime historique, disons, de développement a basculé. C'est-à-dire la conscience s'est faite chez les élites un peu partout qu'il n'y avait pas de planète correspondant au projet de développement universel. Et ça s'est traduit de deux façons. On le voit encore aujourd'hui, bien sûr, avec M. Trump. Au fond, les élites, comme on dit maintenant, ont décidé qu'elles ne feraient pas monde commun avec le reste de la population. Quand M. Trump dit l'Amérique se débrouille maintenant toute seule, alors que c'est le pays de la mondialisation, ou quand les Anglais disent on quitte la mondialisation et on revient, redevient une île, où tout ce mouvement s'explique, au fond, par la réalisation que la situation climatique est tellement grave qu'il faut, c'est paradoxal, mais vous comprenez psychologiquement de la procédure, qu'au fond, il faut en nier l'existence. On ne comprend rien à la situation politique actuelle, en particulier à la politique très précise de M. Trump, si on ne voit pas que, au fond, il y a un éléphant dans le bureau ovale de la Maison Blanche, c'est éléphant, c'est pas Monsieur Trump. L'éléphant, c'est le climat. La question de la transformation climatique. L'éléphant est là, il est dans la salle, il n'est pas là, il n'existe pas, tout ça ne nous concerne pas, et on supprime, les unes après les autres, toutes les institutions qui avaient été mises en place par M. Obama, dont la signature du traité de Paris, pour dire « cette chose n'existe pas ». Et l'autre phénomène, évidemment, comme vous le savez tous, nous sommes en pleine période électorale, c'est que la réaction de ceux qui se sentent abandonnés par les élites et la mondialisation, c'est de dire « donc, revenons à des choses, des territoires que nous connaissons parfaitement, qui sont des territoires nationaux, des États-nations qui au moins nous donneront protection ». Donc la situation politique dans laquelle on est, entièrement organisée par la question écologique, même si personne ne parle vraiment beaucoup de l'écologie, c'est très passionnant pour moi qui travaille depuis une trentaine d'années sur ces questions, de voir que tout le monde pense à l'écologie, mais comme on pense à l'éléphant dans la chambre, alors qu'on en nie l'existence. Comment on dénie le poids fantastique de la question écologique. Pour dire, non, non, tout ça ne nous concerne pas. Donc il y a le moment historique dans lequel nous vivons, c'est un moment de déréliction, en quelque sorte, dans lequel, d'une part, les élites disent « on se taille, on ne s'intéresse plus du tout à l'idée, à faire même semblant qu'il y ait un monde commun ». Donc démerdez-vous, en gros. Et, disons, la réaction assez normale de ceux qui ont été trahis par cette décision, évidemment, qui n'a pas été publique, c'est de dire « donc, donnez-nous un État national ». C'est vrai en Pologne, c'est vrai en Italie, c'est vrai en Angleterre, avec le Brexit, c'est vrai un peu en France, pas trop j'espère, c'est vrai, et dans tous les pays, en Hongrie, en Inde, en Indonésie, etc. Tout, l'État national revient en force au moment même où tout le monde sait, à cause de la crise écologique, qu'il n'a aucun sens pour définir les problèmes. Donc, nous sommes dans une situation de déréliction, on ne sait pas quoi faire, la politique nous a abandonnés, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on revient à la situation de 1789. Et c'est là que vous voudrez. On revient à la question qui a été posée par le bon roi Louis XVI en janvier 1789, dans un état de déréliction complète, banqueroute de l'État, famine, état de désespoir sur les capacités du politique qui ne sont pas sans rapport avec le désespoir dans lequel nous sommes tous sur la question du politique. Et la question posée au bon peuple de France, à tous les villages de France et à tous les lieux de « qu'est-ce qu'on fait ? Dites-nous comment faire, avec une question évidemment très importante, comment payer l'impôt ?» Et comme vous le savez, nous avons tous appris ça à l'école, tout le monde s'est mis à écrire dans les plus petits villages, en quelques mois, des cahiers de doléances. Et j'ai retrouvé celui de la sénéchaussée de Niort. Alors, je ne vais pas vous lire tout, parce que ça fait quand même 500 pages, la sénéchaussée de Niort. Sénéchaussée définie d'ailleurs de façon assez bizarre, c'est avant les départements, donc malheureusement, il n'y a pas Miel dedans. Il n'y a pas Mel, pardon. Mais j'ai trouvé quand même deux, Mel est là, et j'ai trouvé, Mel est là-haut, oui. Et j'ai trouvé quand même deux villages, assez proches quand même, celle sur Belle, pas très loin, où vous avez les braves gens de Belle, celle sur Mer, se réunissent. Il redonne beaucoup de salutations au roi. Et voilà ce qu'il dit, je vous en dis juste pour vous donner une idée. Qu'est-ce qui se passerait si nous décidions collectivement de redéfinir les territoires sur lesquels nous sommes prêts à habiter? Dans une situation d'urgence, d'urgence écologique, de déréliction, de banqueroute et d'insuffisance totale des politiques. Ça ressemble quand même un peu à la situation dans laquelle on est. On est en situation d'urgence, les politiques flottent sans trop savoir où ils vont. Et évidemment, on est peut-être moins perçu, la question des impôts nous paraît peut-être... Enfin, non, la question des impôts est là aussi. Sur quoi nous avons l'honneur de représenter pour plaintes et doléances, c'est les gens de Mel qui parlent, de Sèvres, en disant que le territoire de cette paroisse est très peu étendu, que la majeure partie des terres est en Groix, j'ai appris ce que c'était que Groix, c'est présent, qu'il se trouve très peu de terres sur le Puf. L'autre partie est en bois taillis, appartenant à messieurs les ecclésiastiques, que les habitants ne recueillent de fourrage qu'autant qu'il leur en faut pour nourrir les bestiaux destinés à la culture des terres. Donc paragraphe après paragraphe, ils redessinent le territoire sur lequel ils sont, et ils expriment de façon assez claire les plaintes successives qu'ils voudraient redresser. Si l'on connaissait toutes les charges auxquelles... Alors, évidemment, ils en rajoutent un peu sur le fait qu'ils sont exploités par les impôts. C'est comme si vous aviez à parler à votre inspecteur des impôts, vous diriez, on est très malheureux, on ne peut rien faire, etc. Il faut compter qu'ils en rajoutent un tout petit peu, bien sûr. Qu'ils ne le feraient pas. Si l'on connaissait toutes les charges auxquelles nous sommes assujettis, on ouvrirait les yeux sur cette basse classe de citoyens, c'est eux qui signent, hein, qui non seulement est chargée de tailles et de corvées, qui regarde les grandes routes, mais encore de différents droits féodaux, dîmes, terrages, cens et rentes, banalités, droits de péage, et en outre vexés par les doménistes, les régisseurs, qui exigent des droits exorbitants, etc., etc. Et ils vont, de page en page, décrire leur situation. Notre vœu le plus unanime et le plus constant est qu'il n'y ait qu'un seul impôt, comme vous le savez, nous avons hérité de leur cahier de doléances, et c'est le système des impôts de la Révolution, également réparti sur les trois ordres, il en résulterait beaucoup de soulagement pour les malheureux et un bénéfice réel pour Sa Majesté. Alors évidemment, tous ces cahiers sont écrits avant la Bastille et avant la Révolution française. Donc ils ne préparaient pas la Révolution française. La preuve, c'est que tous, absolument tous à travers la France, les 15 000 dossiers de cahiers de doléances s'adressent avec une grande politesse. Voilà comment les gens de très poliment, comme vous allez voir. Malgré toutes ces circonstances, nous nous ferons toujours un vrai devoir d'être obéissants et soumis aux lois de notre respectable monarque, ainsi qu'aux décisions, on parlait du monarque un peu plus poliment qu'on parle du président aujourd'hui, ainsi qu'aux décisions et règlements qui pourront être dirigés, réglés et terminés par messieurs les députés. Mais ensuite il parle bien de la suppression de la gabelle, etc. Ensuite, les vitriers de Niort, les bonnetiers de Lyon, tous les gens s'y mettent et proposent quelque chose qui ressemble à une redéfinition assez profonde des territoires. On n'est pas aux États généraux, on est dans la situation d'avant. Les États généraux sont la conséquence de cette agglomération de toutes les plaintes qui redéfinissent les territoires sur lesquels se trouvent les... Et évidemment, nos territoires, les territoires de la petite ville dont je viens de parler, ça doit être la même pour Mel, je ne sais pas quelle sénéchaussée appartenait Mel à l'époque, je n'ai pas trouvé le cahier correspondant, c'était les communautés villageoises qui étaient habituées, non pas à s'exprimer auprès du roi, ça c'est la première fois que ça arrive, mais qui composaient une communauté locale. Généralement, d'ailleurs, c'était le curé qui écrivait, ou le notaire, ou un scribe quelconque qui prenait acte de l'écriture et qui parfois rajoutait ses propres Et donc, ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse en tout cas dans cette comparaison entre les territoires, c'est de redéfinir légèrement la notion de territoire pour tenir compte des transformations qui se sont passées depuis tout ce temps. Un territoire, c'est donc défini comme ce à quoi nous tenons. L'attachement au territoire, ça n'est pas une position réactionnaire, c'est une nécessité. Nous tenons tout, je suppose que si on fait l'analyse, et vous allez pouvoir le faire en remplissant le petit papier qui vous a été donné, nous appartenons à un territoire. Mais c'est aussi un territoire, c'est défini par ce qui nous permet de subsister. Et là, vous voyez que la subsistance, c'est un peu plus compliqué qu'en 1789. Parce que la subsistance, si vous regardez qui vous permet de subsister, vous serez entraîné dans des lieux du monde complètement différents et qui traceraient une représentation de votre territoire bien différente de celle, disons, de la communauté villageoise telle qu'on pouvait l'imaginer en 89. Donc vous êtes immédiatement obligé de parler aussi bien peut-être de la Chine ou bien de l'Afrique, de l'Inde, que sais-je, selon les métiers que vous avez. Et puis c'est aussi, et ça c'est beaucoup plus compliqué à faire maintenant qu'en 89, le cadre des cahiers de doléances le permettait, ce qu'on est capable de visualiser. C'est-à-dire le territoire, c'est plus ce qu'on parcourt du regard, il faut être capable de le visualiser et on s'en aperçoit avec des travaux que nous faisons ici, précisément avec Alexandra et Sylvain et quelques autres, c'est que c'est très difficile de représenter aujourd'hui ce qui est un territoire sur lequel on subsiste. Par exemple, ça fait partie de mon territoire, je ne peux pas m'en passer. Je ne subsiste pas sans ces petits appareils, n'est-ce pas? Mais il est où cet appareil? Il est en Chine, il est fabriqué, il est pensé en Californie, c'est un territoire qui est très difficile à dessiner, et pourtant c'est bien, je subsiste en partie naturellement, pas complètement, je subsiste. Pas mon passé, je suis attaché à cette petite partie, à ce petit objet technique. Alors que, en 89, à Selles-sur-Belle, la réunion des gens qui pouvait parler de subsistance, en particulier le tiers d'État, c'était peut-être déjà plus difficile pour les nobles, je ne sais pas, et très précisément marqué dans un territoire. Et surtout, c'est là l'intérêt de réintroduire la question du territoire en politique, c'est aussi ce qui permet de désigner les amis et les ennemis. Et donc l'exercice qu'il faudrait faire, je ne vais pas me permettre de le faire, il nous faudrait plus de temps de le faire ici, et nous ne souhaitons pas entrer en période révolutionnaire, en tout cas pas tout de suite, avec vous, mais c'est de définir enfin, sur le territoire sur lequel vous êtes et qui vous permet de subsister, quels sont vos amis et vos ennemis. Avec qui vous... Et quand je dis des... Excusez-moi, quand je ne suis pas des humains, forcément. Ça peut être des oiseaux, ça peut être des sols, ça peut être des vers de terre, ça peut être des Chinois, ça peut être des Indiens, ça peut être des objets techniques, ça peut être tout ce à qui et à quoi vous permet, en étant alliés, de tenir la subsistance de votre pays, disons. Et c'est là où la question du territoire devient aussi une question existentielle, c'est ce que vous êtes prêt à défendre. Le problème, le vide du politique, tout le monde se plaint du vide du politique, c'est qu'on est incapable de définir ce qu'on est prêt vraiment à défendre. La politique s'est vidée en quelque sorte par faute de capacité à définir nos amis et nos ennemis, pour faire de la science politique classique, sur les territoires que nous sommes capables de représenter. On discutait ce matin à Chézy avec Vincent et Jérôme Gaillardet, la quantité d'institutions qui couvrent des territoires comme celui de Chizé est immense, et pourtant aucun de ces institutions ne représente un territoire existentiellement vécu dont on pourrait dire « je sais comment le visualiser, je sais ce qui me permet de subsister, et je sais ce que je suis prêt à défendre. » Et forcément, donc, à attaquer. Et c'est là où la question révolutionnaire, pré-révolutionnaire, précisément, la révolution n'est pas la bonne façon d'ailleurs d'aborder cette question. C'est justement c'est les cahiers de doléances qui sont intéressants, pas la révolution. Les cahiers de doléances permettent de reprendre cette question du territoire et de résoudre en partie la question que je posais au début, c'est-à-dire est-ce que quand on vous dit protéger la nature, on parle de quelque chose qui est extérieur finalement à vos préoccupations, à vos considérations, sauf si vous êtes très passionné et très intéressé par les questions, disons, naturalistes. Et si on parle de territoire, alors là, on comprend de quoi on parle. Et si on parle de territoire, on sait ce que ça veut dire que le défendre. Donc, Alexandra a imaginé la formule qui est sous vos pieds, non, pardon, les métaphores, dans vos mains, et qui, si vous avez un crayon et le temps de regarder, peut-être après, pendant la discussion, c'est au fond de comparer les différentes variations des idées sur la nature. Nous n'avons pas une idée de la nature, on en a plusieurs, et ensuite de choisir, comme dans un arbre de décision, les éléments pour qui, c'était la question que je posais, quelle nature et pour qui, de façon à multiplier un peu et ouvrir cette question qui, au fond, nous étouffe. Est-ce qu'il faut protéger la nature? C'est une question qui n'a pas de sens. Par contre, quelle nature et pour qui? Je pense que c'en a une. Je vous remercie. Une magnifique ressource produite par le ministère de l'Environnement, dans lequel il y a beaucoup d'entretiens en anglais et en français de tas de gens qui travaillent sur les questions dont j'ai parlé ici. Je vous conseille d'aller regarder. Donc, comme il s'agit de la période des questions, il faut que nous puissions formuler des questions sous la forme d'une doléance. Non pas évidemment à notre bon loué, le but n'est pas de parler au bon loué, mais de trouver la façon de définir les territoires. Donc je vous laisse soin, non pas de me poser des questions, j'ai aucune réponse aux questions que vous allez me poser. Par contre, je pense que c'est intéressant de se lever pour dire, voilà, mon territoire, c'est ça. Et je suis prêt à défendre pour telle et telle raison, si vous acceptez les règles que je propose, vous pouvez en changer. Si vous avez des questions classiques, posez-les aussi.
La
Les premières questions sont toujours délicates, c'est difficile.
Si, oui, monsieur. Pour commencer, effectivement. Je m'appelle Philippe Caclin, je suis de Claire de la Croix, le vice-président en charge du développement économique à la communauté de communes du pays mélois.
Parfait.
Voilà. Et effectivement, une des questions auxquelles on a à répondre, et je pense que certains ont répondu pour nous, au moins dans les médias, c'est la définition des contrats de territoire, justement. Et il y a des questions qui étaient évoquées là tout à l'heure dans un des transparents précédents, qui sont exactement les questions qu'on se pose. Quel est notre territoire? Comment aller avec qui allons-nous travailler? Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué l'année dernière. C'est une photo que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a fait la une des journaux et sur laquelle on voit les présidents de la communauté d'agglomération du Niortais, de la communauté d'agglomération de La Rochelle, Rochefort-Océan, les deux ONIS, Atlantique et Sud-ONIS, le Saint-Mexantais, et ainsi que les représentants du sud de la Vendée. C'est extrêmement intéressant. Ils se tiennent par la main. Les voix, Marc Le Cercle, ils se tiennent tous par la main.
Donc ils sont d'accord.
Ils sont d'accord, exactement. Ils ont élaboré une charte et ils ont l'intention de promouvoir leur territoire sous la forme d'une métropole. Et c'est un axe extrêmement fort. Ils représentent au total 550 000 habitants. Pas 10% de la population de la Nouvelle-Aquitaine. C'est quelque chose contre lequel on ne peut pas aller. On ne peut pas s'y opposer.
Vous avez l'air de ne pas être d'accord, vous.
Si, au contraire.
Ah, d'accord, vous êtes d'accord. Là, on ne peut pas s'opposer. Non,
justement,
il ne faut pas s'en opposer.
Voilà. On ne peut pas s'y opposer parce que ça représente un potentiel, une force absolument considérable. Donc, nous, Mélois, on n'est pas là-dedans. Il faut qu'on se repositionne, il faut qu'on redéfinisse notre territoire par rapport à ça. Alors, évidemment, je vous disais tout à l'heure, certains ont défini le territoire pour nous. Mais c'est quelque chose de temporaire. Effectivement, certains, c'est la région. La région nous associe avec le Niortais et le Saint-Vexantais dans un sud de Sèvres qui vivra un certain temps encore. Pour ma part, je pense que les départements, on n'a pas moi qui ai à peu près votre âge, hein, je suis de 1949, je pense qu'à mon âge, je verrai la fin du département dans sa configuration actuelle, parce que ça ne répond plus à une problématique des territoires d'aujourd'hui. Parce qu'il y a une redéfinition fondamentale de tout ça, et il faut qu'on essaye de voir plus loin que le bout de notre nez et le bout des règles actuelles, et donc redéfinir nos territoires. Sur notre territoire du Mélois, effectivement, l'influence du Niortais fait qu'on a un poids économique plus important venant du Niortais, et s'atténuant à mesure qu'on va vers l'Est et le Sud. Donc on a une problématique de rééquilibrage de ce territoire. Avec qui allons-nous le rééquilibrer? Pas avec les Niortais, qui eux sont complètement orientés vers La Rochelle. Et ils ont raison. Et je leur dis, mais à votre place, je ferai la même chose. Je militerai pour la métropolisation, parce que c'est une force considérable, c'est un atout considérable. Donc, rééquilibrer le territoire, pour nous, c'est regarder avec qui? C'est regarder avec le Cyprésien, c'est regarder avec le Ruffécois, et au-delà, bien sûr, le Confolentais qui un peu vite est associé avec le Ruffécois, dont l'un et l'autre ne veulent pas travailler ensemble parce que leurs problématiques de territoire ne sont pas les mêmes. Les Cyprésiens et le Montbrionnais, même chose, on les a associés dans un Sud-Vienne dont finalement ils considèrent que c'est pas leur véritable territoire.
On
peut très bien imaginer.
En abandonnant la notion de département.
Et puis je ne vais pas occuper le micro trop longtemps. Mais vous voyez, on imagine une recomposition cyprésienne, ruffécois, mélois, qui sont des territoires relativement voisins. Les territoires à moutons sont plutôt des territoires à chèvres, des territoires protestants. Les territoires à moutons confolantais.
Si vous essayez de réconcilier les protestants et les catholiques.
Je terminerai là. Il y a eu un vrai suivi, pour moi c'était quelque chose d'extrêmement important, une réunion des anciens pays chouans. À Bressuire, il y a des gens du nord de la Vendée
et du sud du Maine-et-Loire qui se sont réunis pour réfléchir ensemble. Vous voyez, il y a des éléments forts, et on revient à des situations, des configurations qu'on a connues à une certaine époque pré-révolutionnaire, mais qui finalement, malgré toutes les évolutions, malgré le smartphone, malgré le TGV, malgré etc., ben, rejaillissent comme des éléments qui semblent être fondamentaux.
Mais pour qu'on continue la discussion, les territoires dont vous parlez sont quand même des territoires encore venant de l'administration simplement redessinés. Ils sont projetés sur une carte, malheureusement beaucoup des termes, des adjectifs que vous avez utilisés, je les ignore parce que je ne connais pas suffisamment en dehors, mais des cahiers de l'erreur, je ne connais pas suffisamment le Niortais. Mais les territoires tels qu'on les imagine dans cette opération d'Orléans, c'est pas simplement des projetés sur une carte. C'est aussi beaucoup d'autres choses qui dépendent parce que la mondialisation est passée par là en deux siècles. Et donc il faudrait pouvoir aussi étendre, non seulement dissoudre le département, mais aussi redessiner des ensembles territoriaux où il n'y a pas que des humains d'abord, puisque c'est plus la question simplement des humains, c'est aussi la question de la ci-devant nature, en quelque sorte, et recomposer des formes distinctes. Donc peut-être qu'il y a d'autres questions sur d'autres définitions du territoire et la nature, et vous avez peut-être rempli des cases tout à fait différentes du petit schéma d'Alexandra.
Bonjour, Michel Derovitch, je suis président des ingénieurs agro, un des anciens ingénieurs agro sur la région. Moi je voudrais faire écho de votre conférence sur une conférence qui a eu lieu à Poitiers, donnée par Luc Ferry il n'y a pas très longtemps, où effectivement il parlait de Gaïa, de cette prise de conscience de l'ensemble du territoire, de l'ensemble de la population du globe, sur une existence effectivement entière qui méritait d'être réfléchie. Et il parlait aussi en parallèle d'un autre. Et j'aimerais que vous nous donniez un peu votre position là-dessus, d'un autre mouvement de société qui s'appelle le transhumanisme, qui vise à expliquer que l'homme aujourd'hui bénéficie de la croissance énorme de compétences liées aux nouvelles technologies de l'information. Vous montriez votre téléphone portable tout à l'heure, qui effectivement multiplie considérablement vos compétences et votre capacité à interagir, à agir. Et j'aimerais savoir comment est-ce que sur l'écologie, on peut utiliser cette réalité augmentée pour peut-être changer notre vision du territoire, un territoire qui serait moins tel qu'on l'imaginait autrefois, une écologie tranquille, paisible, avec des rivières qui coulent, mais peut-être avec une terre qui devient différente parce qu'on va forcément la modifier et accroître ses possibilités.
Oui, c'est une question importante. Le territoire est vraiment un rien de calme. Précisément, si on le définit comme ce qui nous permet de subsister, il faut le prendre tout à fait littéralement, et ce qu'on est prêt à défendre et à visualiser, il va falloir profiter d'une multitude de techniques que la cartographie telle que le petit dessin là, sur la sénéchaussée de Niort permettait au 19e siècle ou au 17e siècle, mais il n'a plus aucun sens maintenant, je suis bien d'accord. Transhumanisme veut dire deux choses très différentes. Et d'abord, il existe plein de techniques qui vont nous permettre de retravailler la question du monde commun ou du territoire différemment. Donc ça, c'est la version positive que me paraît très importante. Et puis, il y a transhumanisme au sens, cette fois-ci, qui paraît beaucoup plus délicat à accepter, qui est de dire, au fond, toute cette transformation de la mutation écologique, c'est super. Ça veut dire que l'Anthropocène, nous sommes très puissants, nous les humains, une espèce de version Superman. Nous les humains, nous sommes Superman. Bon, on a fait quelques conneries dans le passé, mais maintenant on va reprendre par une espèce d'ingénierie générale la planète. Et c'est le thème très important dans cette que la planète est un vaisseau spatial, une métaphore complètement inexacte du point de vue technique, mais qui est justement repris par ces transhumanistes. Et au fond, la question des limites. En gros, la philosophie politique hésite entre est-ce que ça veut dire qu'on revient à un thème des limites qu'il faut prendre au sérieux politiquement, ou est-ce que le transhumanisme, ça va être vrai, grâce à la technique, on va sortir enfin de ces limites. Et évidemment, moi, je pense que c'est plutôt prendre très au sérieux la question des limites me paraît beaucoup plus important pour des tas de raisons, disons, à la fois morales et esthétiques. Et ayant longtemps étudié la question du modernisme, je me méfie beaucoup de la réaction qui consiste à dire, bon, tout ça c'est des problèmes, mais la technologie va au contraire nous retransformer, on va avoir des prothèses, il y a même des gens qui disent on va faire des petits hommes, donc des humains beaucoup plus petits, donc ils vont pouvoir occuper. Évidemment, si les humains étaient tous gros comme ça, on pourrait en mettre beaucoup plus et ça utiliserait beaucoup moins de ressources. On peut aussi passer à des techniques de prothèses numériques très importantes. Donc il y a le transhumanisme, il y a le transhumanisme qui me paraît dangereux et typiquement moderniste, disons. Et puis une version qui est assez évidente, c'est qu'on ne va jamais pouvoir traiter le moindre du début du commencement d'un problème écologique sans les nouvelles techniques, et en particulier sans l'équipement, un thème qui est cher à notre ami Gaillardet, ici, qui est responsable des zones critiques en France, qui est la capacité d'équiper tous ces écosystèmes avec des instruments qui nous permettent de les visualiser, chose évidemment essentielle à toute politique collective. Mais votre question est importante, parce que le transhumanisme est une autre version c'est un enjeu qui va devenir très important, comme le géo-engineering, pour les mêmes raisons.
Oui, Dominique Perrin de Niort. Oui, je voudrais revenir au début de votre exposé, quand vous parliez des 2,5% de CO2. Donc, l'homme, en fait, semble avoir des conséquences importantes sur son environnement, l'humanité, disons. Mais je voudrais quand même qu'on distingue les cas où c'est un sous-produit de son activité humaine. Par exemple, quand il fabrique des smartphones, il ne fait pas exprès d'exploiter des ressources de la planète. C'est parce qu'il en a besoin pour construire son smartphone. Mais que pensez-vous des projets éoliens dont je viens d'entendre parler, 1500 éoliennes offshore dans la mer du Nord, qui seraient conduites par 6 pays européens, et qui donc développeraient, si j'ai bien retenu, 100 000 mégawatts. Alors là, on sait très bien que ça va avoir une influence sur le climat. Sur le climat de cette région.
Oui, pour leur fabrication.
Non, pour leur utilisation, c'est-à-dire qu'on a une énergie qui se déplace dans le monde et qui va se trouver captée. Donc ça va modifier la météo d'une certaine région.
Et là, je suis bloqué par mon ignorance. Les éoliennes sont capables de modifier le climat autour d'elles.
Mais je suis surpris que personne ne se pose la question à force de freiner le vent, on va finir par créer des désordres.
C'est ce que tu disais tout à l'heure. Je ne suis pas... Si nous faisons tolérance, il faut que ceux qui défendent le climat modifié par les éoliennes puissent effectivement parler. Mais j'avoue que j'ai aucune. C'est un problème important. Je pensais que les éoliennes ont beaucoup d'autres ennemis, qui sont dus au bruit, qui sont dus aux oiseaux, qui sont dus aux cours, qui sont dus. Mais je ne savais pas qu'ils étaient aussi possiblement accusés de modifier le climat autour d'elles, en tout cas, peut-être pas à l'échelle de la planète. Important.
Oui. J'ai une question de. J'ai pas forcément compris Sylvie Hout, pardon, CNRS Chizé. Le changement d'échelle entre la COP21, des accords internationaux, mondiaux, ce consensus qu'il n'y a pas de projection possible d'un monde commun, on va dire, ou d'un projet commun, et donc ce retour au nationalisme, et puis l'échelle du territoire vue comme par les citoyens. Et du coup. Ce changement d'échelle de territoire, parce que du coup c'est antagoniste avec l'idée qu'on se fait, la belle idée qu'on se fait d'un territoire. Et du coup, comment vous voyez le rôle des citoyens dans toute cette histoire?
C'est justement pour ça que je reprends. Ce qui est très intéressant, je reconnais que c'est une fiction, cette affaire de Gaïs de Léandre. C'est pour reprendre. C'est pour sortir du mot écologie. Et environnement. Au fond, j'ai déjà discuté ça dans Politique de la Nature. Le problème de l'écologie, c'est que la notion de nature ne permet pas de politiser les questions qu'il faut politiser. Donc, prenons un autre modèle. Et ce qui est intéressant dans le modèle des cahiers de Léon, c'est que justement, il change d'échelle. On est dans une situation de banqueroute complète. Versailles ne sait plus quoi faire. On a usé tout un tas de ministres. Ils sont vraiment totalement démunis. Et ils changent d'échelle. C'est ça qui est assez étonnant. En 89, en disant, nous allons demander aux je ne sais plus combien de villages de France de recomposer, parce que le changement d'échelle, de toute façon, il est toujours obtenu par la multiplication, que ce soit des bactéries, ou que ce soit des arbres, ou que ce soit des humains, il faut toujours repasser par un niveau individuel à un moment pour recomposer des collectifs et des agrégats. L'agrégat n'a pas d'existence en soi. C'est toujours un processus. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense franchement que politiquement, on n'a jamais refait quelque chose d'équivalent à cet épisode de 89. On n'a jamais recomposé bottom-up à partir de la multiplicité des citoyens de tous les petits villages de France et de tous les pays de France s'agitant pour recomposer, alors évidemment à l'échelle de la France, qui est évidemment maintenant une échelle petite par comparaison à l'ensemble des questions que vous posez, de quoi se compose le monde commun? Finalement, c'est une question qu'on ne repose plus en politique. On est supposé savoir ce que c'est que le bien commun. Et on est supposé savoir, et maintenant on en doute profondément, que les représentants de ce monde commun sont les hommes et les femmes politiques. Donc, la question de l'échelle, évidemment, est cruciale dans toutes les questions écologiques. C'est le fameux agir globalement, localement et penser globalement. Mais c'est aussi un problème de composition que les scientifiques qui travaillent sur les vivants connaissent parfaitement. C'est-à-dire qu'on passe toujours par une multiplicité de phénomènes qui, accumulés, que ce soit des champignons, des bactéries ou des humains, finissent par faire des agrégats d'une importance colossale. Et donc ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que précisément rendre citoyen et recomposer à partir d'une toute petite échelle, mais si on je ne pense pas que j'arriverai à déclencher une scène quasi totale. Il s'agit d'une fiction intellectuelle, mais je pense recompose effectivement bien quand même la question justement des échelles, qui est la question écologique clé en attendant. Les agrégats n'ont pas d'existence politique. Qu'est-ce que ça veut dire de représenter la planète politiquement sur les questions écologiques? On n'en a aucune idée. Donc il faut bien recommencer en quelque sorte à zéro. Je signale que j'ai fait à Paris en 2015 une simulation avec les élèves de Sciences Po et plein d'autres élèves sur la COP. On avait amélioré beaucoup la COP, que vous avez vu. On avait beaucoup amélioré parce qu'on a fait la COP, une vraie COP, en représentant justement les aides de la nature. Et donc c'est un peu le même scénario que j'imagine ici. Oui.
Bonjour, David Laurent. Je suis stagiaire au CNRS en ce moment et je voulais revenir sur la question qui vient d'être posée par Sylvie Hout sur, rebondir sur l'idée des échelles et aussi sur la première question de Monsieur le maire qui parlait beaucoup au final d'identité sur les territoires qui était, j'ai rien compris à ce que vous avez dit parce que je suis pas du coin, mais il y avait beaucoup d'intérêt à mettre en commun de gens qui avaient des histoires et des identités différentes. Et en fait, c'est ce terme d'identité que je voudrais apporter parce que quand je réfléchis à un territoire, aujourd'hui, j'ai du mal à lui donner une matérialité, ou alors je lui en donne plusieurs, et j'ai du mal à voir... Enfin, j'ai du mal. La question est très complexe de voir quelle identité on met sur un territoire commun, dans le sens où, au niveau de la France, mais même au niveau d'une ville, il peut y avoir des gens comme moi, classe moyenne, grâce à mon école, j'ai pu partir au Brésil, j'ai vu plein de choses très différentes... Donc je suis très attaché à la nature de ma commune, je suis aussi très attaché aux histoires politiques de mon pays, par exemple, ce genre de choses. Il y a vraiment, au final, mon territoire, ma vision du monde, ma représentation du monde, elle est très, très diverse et très multiscalaire.
Absolument.
Et elle est très différente de gosses que j'ai pu rencontrer, qui vivent en banlieue, qui n'ont jamais vu la mer, qui ne savent pas reconnaître certains légumes, parce que voilà, ils n'ont pas l'expérience de ce genre de choses. Et c'est ça, c'est comment à partir de tout ça, on refait du monde commun, comme vous avez dit, des territoires communs.
C'est exactement la question que je pose. C'est-à-dire, c'est précisément parce que on ne peut plus supposer que la notion de territoire, au sens administratif, disons, d'un canton ou même d'une région, capte les intérêts de subsistance des gens qui s'y trouvent, qu'il faut refaire ce travail exactement dans lequel... Et nous savons tout ça dans nos villages. On a à la fois des Parisiens qui sont là et qui viennent de temps en temps. C'est la nouvelle lutte des classes, en quelque sorte. Mais ce sont des classes qui sont géolocalisées et qui n'ont pas, vous avez parfaitement raison de le souligner, qui n'ont pas les mêmes points de subsistance. C'est pour ça que, si on avait le temps de travailler ensemble, on ferait des exercices de cartographie, précisément. Vous auriez le Brésil qui compte beaucoup dans votre territoire. Et c'est d'ailleurs la notion d'identité qui n'est peut-être pas la bonne. Parce que l'identité, comme on sait, c'est précisément des territoires dont l'adhérence et l'adhésion que nous avons pour eux est aussi dangereuse, comme on le voit par la question de la migration. Donc il ne faut pas forcément associer territoire à identité. Territoire, il faut le prendre dans le sens que j'ai dit. Je reconnais que ce n'est peut-être pas le bon mot. On peut parler de sol ou de... Je ne sais pas qu'il faudrait utiliser, qui est qu'est-ce qui vous permet de subsister. Et aussi loin que vont ce qui vous permet de subsister, aussi loin va votre territoire. C'est vrai de vous qui avez été au Brésil, mais c'est vrai d'une industrie, c'est vrai d'un maire, c'est vrai, etc. Alors disons, un maire, il va être, pour des raisons juridiques, il va pouvoir, disons, parcourir du regard les limites de son territoire. Mais à l'intérieur de la mairie de notre ami maire qui a parlé en premier, je suppose qu'il y a des tas de gens qui sont dans des territoires qui n'ont rigoureusement rien à voir avec le sien, même s'ils votent. Et on voit bien là, le problème, c'est que les circonscriptions administratives captent un certain nombre d'intérêts et de solidarité et d'identité, si on veut utiliser encore le mot identité, mais très mal. Et c'est pour ça, encore une fois, les cahiers de doléances, c'est assez extraordinaire, parce que dans un village, vous aviez trois cahiers, un pour les nobles, un pour les tiers états, un pour les prêtres et les moines, les prêtres et les moines étant en désaccord complet à peu près sur tout, à l'intérieur d'eux-mêmes. Et en plus, parfois, le quatrième état, c'est-à-dire les indigents, qui arrivaient quand même à fourguer deux ou trois protestations contre les laboureurs un peu riches qui écrivaient parce qu'ils savaient écrire leur cahier de doléances. Donc, les luttes de classe, en quelque sorte, sur la définition du territoire, sont fondamentales dans cet exercice. Et donc, c'est précisément là où le problème d'échelle peut commencer à s'aborder. Parce que, évidemment, en les questions d'échelle, on suppose toujours que le niveau au-dessus est plus grand que le niveau en dessous. Ça, c'est un problème sociologique que j'ai beaucoup travaillé. Monsieur le maire qui vient de parler, il n'est pas... Évidemment, c'est la circonscription, mais il n'est pas au-dessus. Enfin, je ne vais pas parler du maire parce que je ne vous connais pas suffisamment, mais vous n'êtes pas un Superman. Donc vous n'êtes pas physiquement plus grand et au-dessus de vos administrés. Donc les administrés peuvent avoir 75 autres formes d'engagement que le maire ne capte pas, que la mairie ne capte pas. Donc le problème d'échelle, ce n'est pas d'emboîter du petit sur du grand, du plus grand, etc. C'est de recomposer précisément les différences que les écologues finalement en font très bien avec des notions de communauté, avec tout un tas de notions écologiques, qu'on applique avec beaucoup de capacité sur les abeilles ou sur les batraciens et qu'on ne sait pas appliquer aux humains. La question des échelles est la question fondamentale de ces exercices.
Justement, je me pose la question si la question de l'échelle est une vraie question. Parce que quand je me pose la question du territoire, de ce que moi je comprends en tant que territoire, ça délimite.
Ah oui, mais t'as toujours
carte. Et si vous définissez... Non, mais c'est pas forcément...
Cartographie, oui.
Non, pas dans une cartographie, dans un volume. On vit dans la Terre.
On dit quoi ?
On vit sur la Terre. Ouais. On sait qu'il y a du CO2, il y a de l'oxygène, il y a de l'eau. Et tout ça, ça tourne. Donc, les limites.
Ça
tourne par l'oxygène que moi j'aspire.
Ah, d'accord.
Produit oui. Par la plante que monsieur le maire il a plantée.
D'accord.
Ou peut-être qu'on
a fait le Brésil.
Donc, les limites sont très difficiles à poser. Bien si sûr. On parle en termes de territoire qu'on veut garder. C'est-à-dire qu'en termes d'eau ou d'air respirable. Donc, comment vous vous imaginez de définir un territoire, sachant que. Pour moi, le territoire, il est mondial. Il n'y a pas de limite à fixer. Parce que, notamment, l'économie et l'écologie est limitée par ce que nous connaissons aujourd'hui. Et on n'en a pas de réchange. Donc on n'a pas un territoire qu'on peut, à part le mettre dans une bulle, on peut l'exclure. Ça ne marche pas.
Malheureusement, je suis à la fois d'accord et en désaccord avec vous, parce que quand on dit le territoire, c'est la terre, dans son ensemble, on perd la capacité politique de définir les limites, non pas, vous avez parfaitement raison en termes de cartographie, en termes de tracé, mais les limites en termes d'amis et d'ennemis. Et donc il faut, moi je ne souhaite pas, alors je prends la question climatique, un article célèbre a montré qu'au fond, la plus grande partie du CO2 relâchés dans l'atmosphère et la responsabilité de 12 entreprises, dont on connaît le siège social. Je ne veux pas confondre dans une totalité de la planète, je ne veux pas me confondre avec, disons, en disant tout ça c'est lié. Non, il y a 12 entreprises dont on connaît le nom, l'adresse, en tout cas le capital, qu'on peut désigner en disant ceux-là sont les responsables, en partie naturellement, de la situation dans laquelle je suis et que je mets donc en dehors. Je c'est une limite qui est une limite politique. On ne peut pas politiser, c'est un principe classique de sciences politiques, on ne peut pas repolitiser la question écologique si on n'est pas capable de définir ses amis et ses ennemis. Or, le problème de beaucoup de discours écologiques, c'est de fondre, de fusionner ces différences qui sont essentielles à la vie politique sous la forme, disons, d'une totalité. En disant ça, oui, ce qui est vrai, vous avez complètement raison, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai non plus. Il faut être capable, c'est pour ça que le thème fondamental, c'est celui de composition. Il faut recomposer, bien sûr, peut-être qu'on arrivera à ce que la planète soit un monde commun, pour le moment, elle ne l'est pas. La nature divise. La nature, toute allusion à la question de la nature, nous divise. Nous ne sommes pas d'accord sur les éoliennes, on n'est pas d'accord sur la façon de manger de la viande, on n'est pas d'accord sur le soja qui remplacerait la viande, on n'est pas d'accord sur le thon rouge, on n'est pas d'accord sur la façon de on n'est pas sur la façon de passer une charrue dans un champ. Donc on ne peut pas aussitôt passer au niveau de l'accord en disant « mais tout ça c'est le même monde ». Non, ce n'est pas le même monde. Et c'est pour ça que la question fondamentale, c'est celle, enfin, à mon avis, maintenant je suis d'accord avec vous, sur la fin tout est lié, mais en attendant, tout n'est pas lié. La nature divise. Il faut accepter cette division avant de pouvoir composer un monde commun. C'est ça mon argument.
Je prends le relais. La question au départ, c'est quelle nature on veut ou on aura demain, qui est devenue en fait la question du coup, quel territoire on définit ou on
oui, veut. Territoire, monsieur a raison, c'est peut-être pas du tout le bon mot. Hein.
Bon, je parle de votre territoire quand même, mais je m'interroge sur la place des. Enfin, si on.
De quoi ?
Si on aborde les choses comme ça, quelle sera la place des biens communs ? Qui va défendre les biens communs dans cette vision des territoires ? Qui va défendre les tigres ?
Ben, le problème, c'est précisément que nous n'avons pas le début d'une réponse à cette question. Donc le bien commun, c'est là encore une fois où la procédure de rentrer, de redonner la composition du monde commun, et de recommencer en quelque sorte à zéro, puisque au fond, la situation de banqueroute, évidemment que c'était une banqueroute au sens du budget, mais c'était une banqueroute aussi morale. L'incapacité de définir le bien commun en 1789 était maximale. Donc maintenant, on a 189 pays disent on va résoudre la question du climat. Et donc ça veut dire qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose de commun, là, qui pesait sur eux, en tout cas avant que M. Trump ne renverse la balance. Il faut bien que je vous dise que M. Trump, c'est le premier gouvernement entièrement écologiste de la planète. Mais il est écologiste dans le mauvais sens, en négatif. Mais il est obsédé par la question du climat et la question écologique. Il est tellement obsédé qu'il supprime une à une toutes les réglementations, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est une indication intéressante. Trump est très intéressant. Il faut bien étudier ce que dit M. Trump, parce qu'il désigne, à contrario, l'endroit où il faut aller. M. Trump va par là-bas. Ah bon, bah, c'est un parfait indicateur. La question du bien commun, c'est aussi de trouver les institutions politiques qui correspondent à la situation à laquelle on est. Mais elle n'existe pas, cette situation. Qu'est-ce que ça veut dire pour 8 milliards d'humains de devenir capable d'aborder la question de la transformation de la planète? Une question qui ne s'est jamais posée. Elle s'est posée symboliquement, comme on le voit très bien dans les fresques que j'ai montrées. C'est évident que là, le paysage était entièrement humanisé, dans le plus beau paysage qui soit, qui est le pays de Siennois, et qu'il était évident que planter un arbre, construire une ville, définir une église, c'était le même. On a su faire ça. Mais à l'échelle d'une terre qui elle-même, où le système terre est en train de se transformer, personne n'a d'expérience de ça. Donc le bien commun, la notion même de bien commun, doit être redéfinie, surtout que dans ton sens, le bien commun, ça inclut celui des oiseaux, par exemple. Et donc il faut inventer, c'est ce qu'on a essayé de faire avec la simulation en mai 2015, il faut inventer un moyen de représenter ce que j'appelle le parlement des choses, c'est-à-dire la capacité que les oiseaux soient représentés, peut-être par toi, éminent ornithologue, à condition que tu sois fidèle à ce qu'ils veulent. Donc il faut que tu rédiges le cahier de doléances, parce que la question de reconstitution des territoires exige aussi que les territoires puissent être. On n'est pas tout seul sur nos territoires. Ce n'est pas les territoires au sens des humains. le besoin de construire le monde commun, c'est aussi un monde commun où il n'y a pas les oiseaux, et la protestation des oiseaux sera quand même forte. Et ils protesteront de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire en disparaissant. C'est une forme de comportement assez dur. On avait normalement que un quart d'heure.
Je crois que s'il y a encore une,
d'accord,
pas de question rentrée, s'il y a une, on va en poser une dernière.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de visualiser concrètement notre territoire, et il est beaucoup plus gros, dans le sens, il est beaucoup plus grand que ce qu'on le pense, parce que dans notre façon de consommer, enfin dans ce qu'on consomme de façon générale, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont produites ailleurs, donc pour subsister. Et du coup, il y a la notion de responsabilité individuelle qui n'est pas accepté par tout le monde, mais finalement on a un impact sur à très large échelle et finalement on s'en rend pas compte, donc il y a on impacte des territoires qu'on ne voit pas en fait. Et là je trouve qu'il y a quelque chose à faire.
C'est visualiser les territoires, même si on garde le mot provisoirement pour notre discussion, c'est la chose la plus difficile. Par exemple, en un certain sens, du point de vue géopolitique, les États-Unis nous envahissent à partir du moment où Trump se retire de l'accord de Paris, ils pèsent sur notre territoire, de même que nous pesons sur les îles du Pacifique, nous pesons, nous les Européens, nous sommes responsables aussi, pour prendre votre terme de responsabilité, nous pesons, nous enfonçons les îles du Pacifique dans la mer. Et maintenant, M. Trump, si pendant 5 ans, 4 ans, ou 8 ans, pendant 4 ans, abandonne toutes les réglementations et continue, eh bien, il nous enfonce. Au fond, il nous a déclaré la guerre. Il nous a considérés comme ennemis. Ce que d'ailleurs, Mme Merkel a dit très clairement. Au fond, à partir du moment où on dit « America alone derrière un mur », on construit dans une situation de crise écologique quelque chose comme une occupation. Puisqu'elle dit « Allez vous faire foutre ». C'est le Titanic. Je prends mon petit bateau et je m'en vais, puis vous coulez. Et donc, c'est pas très étonnant que les gens à qui on dit « vous coulez » se disent « redonnez-nous au moins l'État national ». Puisque vous n'êtes pas capable de nous assurer une place dans la mondialisation. C'est la situation dans laquelle on est. Donc vous avez parfaitement raison, on ne sait pas visualiser ces occupations, ni les nôtres, au niveau individuel, naturellement. D'où l'importance de reconstruire notre capacité de visualiser les terrains. Alors, abandonnons le territoire, parce que ça, effectivement, je vois bien qu'il y a plein de fausses associations avec territoire, parce qu'on est habitué à terroir, pays, communauté de communes, département, circonscription, tous ces termes qui sont au fond toujours la même logique administrative. Même si on l'a. Peut-être qu'il faut abandonner une réponse.
Oui, bonsoir, Abraham Escobar, je suis mexicain, je suis très honoré de pouvoir déjà vous avoir écouté, pouvoir poser une question. Je suis chercheur à l'INRA et j'ai trouvé assez intéressant l'exercice de nous faire descendre pour repenser à notre territoire. Mais avant, je voudrais exprimer que vous avez beaucoup parlé de développement. Et en tant que Mexicain, je vais vous expliquer après pourquoi je suis sensible à ça. Parce que, de mon point de vue, au 19e siècle, les Européens ont beaucoup défini ce qu'était le développement et qui avait, si je ne me trompe pas, commencé avec la révolution industrielle. Et vous avez parlé beaucoup de M. Trump et des États-Unis. Donc, j'imagine que cet exercice que vous avez fait...
Comme Mexicain, vous êtes assez sensible à la politique de M. Trump.
Oui, tout à fait. Et, par contre, je suis d'accord pour le mur. Et je suis favorable à la construction du mur, hein, anecdotiquement, mais aux frontières de 1810, par exemple. Ah. Voilà. Bon. Ça, c'est une parenthèse.
Je l'ai réutilisé,
donc, oui, je vais lancer même une pétition sur les réseaux sociaux. Et... Donc, ma question concerne ça. Lorsque vous dites, pour la COP21, les gens se projettent où ils sont dans 30 ou 50 ans, et ça ne colle plus du tout. Et donc, si on revient en arrière, au 18e, 19e siècle, les gens se projettent et ils voient qu'ils peuvent développer. Et donc, ils vont dans des territoires, donc toutes les expéditions des Cook, l'Amérique colonisée, l'Australie, etc. Donc, il y a des ressources encore. Mais lorsqu'on continue dans ce type de projection, ça amène à la Première et la Deuxième Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Donc, ma question est, jusqu'à quel point aujourd'hui, ces projections qui sont comme ça vont éventuellement amener à des conflits de plus en plus forts, qui vont un peu réguler la population. Et de l'autre côté, est-ce que, donc ça c'est une sorte de commentaire, et la question pour l'exercice que vous essayez de nous faire faire, et j'essaye de comprendre qu'est-ce que vous voulez dire par notre territoire, c'est pourquoi je suis prêt à donner ma vie?
Pourquoi quoi?
Pourquoi je suis prêt à donner ma vie? Finalement, c'est lorsque vous dites le territoire, c'est ce que je suis à défendre, prêt à mourir pour
ça. Oui, c'est une définition classique, oui.
Voilà, donc j'essaye de ne pas confondre avec département, région, etc. Et la question que je me pose par rapport à vos cahiers de doléances, les gens pouvaient s'exprimer et définir un territoire pour eux, parce qu'à l'époque, ils étaient soit propriétaires, soit ils gagnaient leur vie en vendant les forces de travail pour le propriétaire terrien.
Cela, on s'exprime peu, cela. Les vrais prolétaires ne s'expriment pas.
Là. Donc, dans ces cahiers, ce qui s'exprime, c'est que quelque part, on a les moyens de production. Et aujourd'hui, pourquoi on pourrait plus s'exprimer pour défendre ces territoires, c'est parce que je me dis, mais finalement, au contraire des 12 grosses entreprises qui polluent la planète ou qui produisent du CO2 en grande quantité, moi, individu, qu'est-ce que je possède? Et finalement, la plupart, sur les 8 milliards d'humains, nous possédons pratiquement rien. Il y a 1% qui possède tout. Et donc, qu'est-ce qui est mon territoire pour moi? Finalement, c'est l'appartement que j'habite éventuellement et ma famille.
Oui. Mais c'est là où de toute façon, la question, c'est des classes sociales, de redéfinir des classes sociales territorialisées. Au fond, c'est ça mon argument. Et je pense qu'il s'est passé quelque chose de ce type qu'on a un peu oublié dans le cas des cahiers de doléances. Où, évidemment, c'est la question précédente, la question du dessin du territoire et donc de la communauté villageoise correspondant était beaucoup plus facile parce qu'elle existait. Enfin, facile pour le tiers-État. Et en excluant le quatrième État, c'est-à-dire celui des vrais indigents, généralement qui étaient, disons. Qu'on appelait justement la classe indigente, le quatrième état, ça s'appelait. Donc vous avez complètement raison. De toute façon, ceux qui écrivent les cahiers de doléances, c'est quand même des gens lettrés. De temps en temps, on voit aux fautes d'orthographe que ce sont des gens dont l'expression est plus directe. Mais la question que vous posez, la question capitale, c'est que la reconstitution des classes sociales reterritorialisées, vous avez le célèbre sous-commandant Marcos au Mexique, devient la question essentielle. Mais elle était la question essentielle en 1789. Les deux tiers de la France étaient, les deux tiers de la France étaient possédés par les 2%. On était déjà dans le 1% du 1%, disons, à peu près, peut-être moins inégal que maintenant, mais presque pas, des nobles et des prêtres. Donc la question n'est pas si différente. Simplement, c'est plus compliqué de redéfinir à quoi nous appartenons et ce que nous sommes prêts à défendre. Si vous posez la question de savoir qu'est-ce qui va se passer comme guerre et paix, malheureusement, heureusement d'ailleurs, je n'en ai aucune idée, mais la solution de Trump, évidemment, est une solution qui vise à la guerre, parce qu'il se détache au fond de la question du monde commun. Et surtout, c'est le point le plus troublant dans la solution de Trump, c'est de se détacher de toute attache scientifique, en disant cette question n'existe pas. C'est le premier gouvernement entièrement constitué de climato-négationnistes. Et le chef du ministère de l'Environnement est un négationniste patenté. Donc le seul qui s'est un peu plus, vaguement au courant qu'il se passe quelque chose avec le climat, c'est l'ancien président d'Exxon, qui se trouve être ministre des Affaires étrangères. Et Exxon, comme vous le savez, a en 90 basculé très bonne connaissance scientifique, un déni à l'organisation systématique de la désinformation sur la question climatique. Donc, on est dans une situation où on ne voit pas très bien comment des gens qui n'acceptent plus de contraintes, même simplement factuelles, sur ces questions, n'iraient pas à la guerre. Donc, c'est le drame, je pense, mais il ne faut pas trop en parler, parce que sur ça, on ne va pas dîner. Merci à tous.